Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de commencer la semaine avec vous et avec Culture Média. C'est dingue, on est déjà en décembre. Au menu, 2 heures de médias et de culture au sens large, tous les médias et toutes les formes de culture. Avec le journal des médias évidemment, le journal de la culture, des conseils de sortie, de lecture, des invités, le portrait inattendu d'Hélène Manarino vers 10h15. On va parler aussi du Petit Grégory, une série incroyable sur Netflix. Et notre info média, il sera question de gros, gros sous. 375 millions par an, plus d'un million d'euros par jour. Ce sont les droits de la Champions League qui viennent d'être attribués à Canal+ et à Bein Sport, le grand perdant RMC Sport. Et vous savez quoi? Cette somme colossale, ce ne sont que les droits de la Coupe d'Europe des clubs, parce qu'il y a en plus les droits de la Coupe du Monde, du Championnat d'Europe, du Championnat de France, la Ligue 1, des championnats anglais, espagnol, allemand, italien, je ne vais pas tous les faire. Bref, le foot rend la télé dingue et on va vous aider à y voir plus clair. Nos invités ensuite, Estelle Lefébure, pour Rendez-vous en Terre Inconnue, elle est allée expliquer à des femmes d'une tribu d'Afrique sa vie sentimentale et c'est savoureux. Et puis Sanseverino pour son nouvel album, il s'appelle Sanseverino et Tango Motan, dans lequel il revisite le tango, mais avec batterie, guitare électrique et des textes très drôles. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Et comme tous les jours, on démarre avec vous, Pierre Desereaux de Pure Média, bonjour.
Bonjour Philippe.
Les audiences télé, qu'est-ce que les Français ont regardé tout ce week-end à la télé?
Alors, on va commencer avec les audiences d'hier. Et hier, c'est France 3 qui s'est classé en tête des audiences avec la suite de la saison 9 de la série policière britannique, Les Enquêtes de Vera. Vera qui a pu compter hier sur 4 millions de fidèles, 17% de part d'audience. C'est un très bon score et c'est en hausse sur une semaine. En deuxième place, on retrouve France 2. Le service public a passé une bonne soirée hier. France 2 donc deuxième avec sa soirée dimanche de cinéma. La 2 qui proposait une rediffusion de Tellement Proche, la comédie du duo Toledano Nakache avec Vincent Elbaz et Isabelle Carré. Et ce film a amusé 3 500 000 personnes, 15% du public. Là encore, c'est un bon score pour la soirée du dimanche de France 2. Alors TF1 fait un peu la grimace en troisième position avec sa soirée ciné dimanche. La une qui, en ses froides soirées d'hiver, misait sur un film très caliente, 50 nuances plus sombres, la suite de 50 nuances de grès. Et ben TF1 a fait monter la température dans les foyers français, mais ils n'ont été que 3 400 000 à suivre ce film américain. Un inédit, 15,7% du public.
Et vous avez vu hier la polémique sur Twitter, c'est qu'ils ont coupé le film, ils ont enlevé toutes les séquences hautes et ceci explique peut-être cela.
Bah
si
oui.
Vous passez un film chaud mais que vous enlevez les séquences chaudes, ça marche moins bien. En tout cas, hier, Twitter s'est enflammé.
Twitter s'est enflammé et les téléspectateurs sont partis sur France 3. Alors, ok, du podium, c'est M6 avec un nouveau numéro de Capital, le magazine présenté par Julien Courbet. Hier, le thème, c'était « J'achète, je jette, du grand gaspillage au grand recyclage », point d'interrogation, avec notamment un reportage sur les suites du scandale des invendus d'Amazon qui avait justement été révélé par Capital. Et en moyenne, le magazine a fédéré hier 2 800 000 téléspectateurs, 12,7% du public. Tout va toujours très bien pour Capital. Et du côté des autres chaînes, c'est Arte qui tire son épingle du jeu, mais il n'y a pas de millions. Arte est à 900 000 téléspectateurs avec le film La fille de Ryan de David Lean avec Sarah Miles.
Et puis les audiences de samedi soir, il y avait un nouveau jeu autour de la bande des Enfoirés, évidemment sur TF1.
Oui, une toute nouvelle émission organisée à l'occasion des 30 ans de la troupe des Enfoirés et présentée par Nikos Aliagas. Dans cette émission, on retrouvait notamment Mimi Mati, Pierre Palmade, Amel Bent, Gérard Jugnot ou encore Patrick Bruel. En moyenne, ce divertissement a séduit 3 820 000 Français, 19,5% du public. C'est un bon score, quoique sans éclat, mais qui a permis à la une de dominer les audiences de la soirée de samedi. TF1 qui s'est classé leader devant une rediffusion de Mongeville et ses 3 millions d'habitués sur France 3 et devant le divertissement 2 heures de rire et d'émotion qui a rassemblé 2 200 000 curieux sur France 2.
Et vendredi soir, il y avait le quatrième numéro du divertissement Masked Singer sur TF1.
Oui, deux nouvelles stars ont été démasqué sur TF1. Sous le dino, c'était Smaïn et sous l'abeille, c'était Joyce Jonathan.
Ah,
et c'était
pas... Je suis content, hein, parce que moi j'avais lu sur Twitter que c'était moi sous le dino, donc je suis content, j'étais même pas au courant. Heureusement que c'était Smaïn.
Alors, en moyenne, Masked Singer a rassemblé 4 500 000 personnes. Ce sont encore 340 000 téléspectateurs de volatiliser par rapport à la semaine précédente. Alors, tout ça reste un très bon score, mais depuis son lancement, il faut noter que Masked Singer a perdu plus de 2,1 millions de téléspectateurs. C'est une chute considérable et ce n'est pas un très bon signal pour TF1 puisque dans les autres pays où est diffusé le format, notamment aux États-Unis, en Australie et au Mexique, l'audience a plutôt eu tendance à progresser au fil des semaines. Et un dernier petit mot pour vous dire que vendredi soir, face à Mask Singer, la série française Tropic Criminel avec Sonia Roland a enregistré un bon score sur France 2 avec 3 840 000 téléspectateurs. C'est quand même 300 000 personnes en moins par rapport à la semaine dernière, mais ça reste un bon score.
Merci beaucoup Pierre Desroux, c'est pas vous dans Bob l'éponge.
Non, c'est pas moi.
Je suis content. Merci, à demain.
Culture Média, Philippe Vandel.
Le journal des médias avec Cyril Lacarrière. Bonjour Cyril.
Bonjour Philippe, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Cyril, que faut-il retenir ce matin de l'actualité des médias ?
Du football, Charlie Hebdo qui choque l'armée, France Télévisions qui veut choisir son champion de l'Eurovision, un conseil de déontologie qui sonne creux et YouTube qui cartonne même chez les vieux.
Alors Cyril, c'était notre feuilleton la semaine dernière et nous en parlerons dans quelques instants dans l'info média du jour. L'UEFA a donc fini par attribuer les droits de la prestigieuse Ligue des champions de football.
Après 3 journées de suspense, je me devais en effet de boucler la boucle. Canal+ et beIN Sport sont donc les deux grandes gagnantes de cet appel d'offres. Grande vocalise. Les deux groupes qui avaient vu RMC Sport leur shipper ses droits il y a 2 ans prennent donc leur revanche et diffuseront la Ligue des Champions de 2021 à 2024 contre la bagatelle de 375 millions d'euros par an à 2, une somme record. Autre chaîne revenante, TF1, qui s'est offert les droits de la finale pour ses 3 saisons. Le grand perdant, c'est donc l'actuel titulaire de ces droits, RMC Sport, qui n'aura donc fait qu'un tout petit tour, sans lendemain, dans la cour des grands des droits sportifs. Mais qui sait si le feuilleton est bel et bien terminé. Le groupe sino-espagnol Mediapro, qui a acheté les droits de la Ligue 1 en France, parle de magouille et a déjà fait part de son intention de porter plainte contre les instances européennes du football. Et une précision pour terminer, les droits de la Ligue Europa et de la nouvelle coupe, la Ligue Europa Conférence, n'ont pas encore été attribués. Peut-être l'occasion de se refaire pour RMC Sport et Mediapro.
Cyril, la une de Charlie Hebdo de mercredi dernier a choqué l'armée.
Sur cette une, le dessinateur Biche avait détourné les campagnes de recrutement de l'armée pour en faire des caricatures avec la mort des 13 soldats tués la semaine dernière au Mali lors d'un accident d'hélicoptère. Pas du tout du goût du chef d'état-major de l'armée de terre qui estime que le temps du deuil des familles a été sali par des caricatures extrêmement outrageantes. Le général Bourcard dit également son immense peine et son incompréhension et il invite Rhys, le directeur de la rédaction de Charlie, à se joindre à l'hommage national qui a lieu aujourd'hui même. Une relance.
Ah oui. Et Cyril... Non, j'avais pas de relance, moi, sur ma feuille. J'avais une feuille sans relance, mais c'est
bien,
pas
Philippe,
grave.
Alors, du coup, j'y vais. Ouais. Nous avons tenté de contacter Rhys pour lui proposer de répondre à ce communiqué de l'armée. Le directeur de la rédaction de Charlie Hebdo nous a fait parvenir une lettre par l'intermédiaire de l'agence qui s'occupe du journal. Dans cette lettre, Rhys commence par adresser ses condoléances aux victimes et aux proches des familles. Rhys explique ensuite que ses dessins sont dans la veine de ceux que Charlie diffuse habituellement. Des dessins, je le cite, crus, qui mettent en scène sans ménagement la dureté du destin militaire. Enfin, le directeur des rédactions assure que sa rédaction est consciente de l'importance du travail effectué par les soldats français pour lutter contre le terrorisme, mais que son journal se doit de rester fidèle à son esprit satirique, parfois provocateur.
Et on retrouvera l'intégralité de la lettre de Rhys sur notre site europe1.fr. Tout à fait autre chose, France Télévisions qui a décidé que le concours de l'Eurovision serait moins participatif cette année.
Oui, c'est le Parisien qui l'affirme. Terminer le choix du candidat par des téléspectateurs. Le prochain représentant de la France sera choisi par un jury de professionnels. Le quotidien indique que les dirigeants du groupe public ont été échaudés par l'expérience Bilal Hassani qui avait été plébiscité par les votes des Français. Quand je rêve, je suis un roi. Rich, un roi qui n'avait donc pas convaincu, Bilal Hassani avait dû se contenter de la 16e place sur 26. Mais France Télé veut y croire et ses dirigeants espèrent même s'approcher du podium lors de la prochaine édition qui aura lieu à Rotterdam, aux Pays-Bas. Mais, histoire de ne pas ressembler à un conclave du Vatican, France 2 pourrait quand même accepter de solliciter l'avis des téléspectateurs dans la toute dernière ligne droite pour trancher parmi les 2 ou 3 personnalités choisies par le jury.
Une naissance aujourd'hui, c'est aujourd'hui que va voir le jour le Conseil de déontologie journalistique et de médiation.
L'Assemblée Générale fondatrice doit permettre aujourd'hui de créer un conseil d'administration provisoire. Et si plusieurs personnalités ont fait connaître leur candidature pour l'intégrer, ce conseil est loin, très loin même de faire l'unanimité. 19 sociétés de journalistes, dont celle d'Europe 1, ont fait savoir leur opposition à ce projet, affirmant que ce sont les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs qui jugent les journalistes, mais pas les journalistes qui se jugent entre eux. Un conseil de déontologie des journalistes auquel les médias refusent de participer. Voilà une affaire qui commence mal.
Et puis Cyril, une fois n'est pas coutume, coutume, c'est vous qui avez un chiffre médiamétrie à nous apprendre.
Nous sommes 39 millions de Français à consulter YouTube chaque mois. C'est la première fois que ce chiffre est rendu public et nous le devons donc à Médiamétrie, qui s'occupe notamment de mesurer les audiences de la télé et des radios. Chose étonnante, on apprend que parmi ses utilisateurs, 4 sur 10 ont plus de 50 ans. YouTube n'est donc pas l'apanage des jeunes, mais ce sont quand même eux qui y passent le plus de temps. 46 minutes par jour pour les 18-34 ans, alors que ce n'est que 8 minutes pour les plus de 50 ans. Et si on y va sur YouTube, c'est surtout pour de la musique. La musique représente 76 millions de vidéos vues chaque jour sur YouTube en France.
Merci beaucoup Cyril Lacarrière. À demain pour un nouveau journal des médias.
À suivre l'info média du jour, on va revenir sur les droits télé de la Ligue des Champions. Sur quelle chaîne est-ce que vous allez regarder le foot? On va tout vous expliquer avec nos invités dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Et Philippe, c'est l'heure de l'info média du jour.
Oui, et dans cette info média, il est question de beaucoup de téléspectateurs et surtout de beaucoup d'argent. 375 millions d'euros par an, plus d'un million par jour. C'est le montant des droits de la Champions League qui viennent d'être attribués par l'UEFA à Canal+ et à Bein Sport. Le grand perdant RMC Sport. Et vous savez quoi? C'est une somme colossale, je dis ça pour les gens qui suivent pas vraiment le football. Ce ne sont que les droits de la Coupe d'Europe des clubs. Et rien que pour la France, parce qu'en plus il y a les droits de la Coupe du Monde, du Championnat d'Europe, du Championnat de France, qu'on appelle la Ligue 1, des championnats anglais, espagnol, allemand, italien. Est-ce que ces sommes astronomiques ont encore un sens? Est-ce que les chaînes vont avoir un retour sur investissement? Comment s'est jouée la négociation? Comment Canal+, qu'on disait moribond, a réussi ce coup de poker? Et que va-t-il se passer pour les perdants, notamment Mediapro, l'Espagnol à capitaux chinois, qui vient de s'offrir la Ligue 1 à partir de la saison prochaine? Pour en parler, je reçois Virgile Caillet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes délégué général de l'Union du Sport et Cycle. On appelle ça le MEDEF du sport, façon de parler. Et Vincent Chaudel, bonjour.
Bonjour.
Fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Bonjour et bienvenue parmi nous. Ainsi donc, Canal et Bein Sport ont obtenu de diffuser la Champions League de 2021 à 2024 pour la somme record en France de 375 millions d'euros par saison. C'est 60 millions de plus que la somme versée actuellement, plus d'un million par jour, même quand il n'y a pas de match. Ce qu'on sait, il y avait quatre prétendants, Canal+, Bein Sport, RMC Sport, Mediapro. Comment s'est jouée la négociation? Est-ce que c'était une vraie négo? Est-ce que c'était vraiment des enchères à l'aveugle? Qu'est-ce qu'on sait?
C'est un appel d'offres de droit privé. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, on n'a pas les mêmes contraintes qu'un appel d'offres de droit public. Et oui, ça s'est joué à l'aveugle, c'est-à-dire que chacun devait rendre ses réponses, ce qui a été fait. Et après, je pense que le montant souhaité par l'UEFA n'a pas été atteint, parce que la réponse aurait dû être donnée mercredi, 15h.
Si mes infos sont exactes, c'était des enveloppes à l'aveugle. Chacun mettait la somme qu'il était prêt
c'est
à
ça.
Mettre,
c'est
mais
ça.
Il n'indiquait pas aux concurrents combien
exactement,
il allait mettre.
Exactement. Donc on rentre dans une partie de poker, en fait.
Ouais.
Et donc, comme l'UEFA n'a pas atteint a priori son chiffre souhaité mercredi 15h, elle n'a pas rendu les réponses, elle a repoussé au jeudi 15h, elle n'a pas obtenu les réponses non plus, et après elle est passée du gré à gré avec qui elle souhaitait discuter, et visiblement il y a eu une association entre Canal+, Bein Sport, mais aussi ce qu'on a oublié d'ajouter, TF1 qui est rentré dans la boucle.
Non, TF1, je vais le dire, c'est parce que la loi oblige à ce que la finale soit diffusée en clair, et donc il y avait un petit appel d'offres pour les chaînes en clair, mais c'est vraiment c'est picrocolin par rapport aux gros appels d'offres.
C'est quand même important si on regarde le PAF, parce que TF1 revient en force sur le sujet du sport. Ils étaient quasiment sortis pendant un temps,
de la Champions League.
Non, mais d'une façon générale, là, ils sont venus avec la Coupe du Monde de rugby, ils sont venus avec le handball, ils reviennent avec la Champions League. Probablement aussi qu'ils ont été titillés, chatouillés par le groupe M6 qui montait en puissance sur le sujet du sport. Donc je pense que c'est loin d'être anodin.
Et ils reviennent aussi avec la Formule 1 TF1. Alors concrètement, quel lot a remporté quelle chaîne, Virgile?
Alors en fait, vous l'avez dit, hein, il y a deux chaînes qui sortent du lot, c'est le cas de le dire. Le grand vainqueur, c'est Canal+. En fait, ce qu'on peut dire, c'est quand même que les droits télé du foot... ça devient vraiment la série à la mode. Hein. Il y a eu la saison 1, c'était il y a un an et demi, vous vous souvenez, avec les droits de la Ligue 1. On attendait Canal, l'opérateur historique, qui se fait dégager au profit d'un
acteur. Non mais racontez pas tout. Qu'est-ce qu'on va voir de 2021?
Donc, le lot numéro 1, c'est les premiers choix. Alors c'est le lot le plus important pour premium. Pouvoir revendiquer la notion de premium, hein, c'est-à-dire les deux matchs, on va dire, des équipes françaises, puisqu'on est en train de parler des droits domestiques en France. Donc c'est Canal+ qui a obtenu ce lot. probablement celui qui est le plus cher.
Hein, donc, il faut dire ce que c'est le meilleur match du mercredi et le meilleur match du mardi.
Voilà, donc ça, lot 1, lot 2, les deux premiers choix, ça va pour Canal. Bein va récupérer le lot 3 qui représente 104 matchs par rang. Ouais. C'est tous les autres matchs. Donc ça correspond bien à la philosophie de la chaîne. Hein. C'est une chaîne spécialisée sport avec un gros tropisme football. Et donc, avoir tous les autres grands clubs européens, eh bien, c'est excellent pour la chaîne et pour fidéliser des abonnés.
J'ai lu ça nulle part, j'aimerais bien savoir. J'ai lu la somme 375 millions. Est-ce qu'on sait qui a mis combien entre les deux ou est-ce que c'est secret ?
Alors ça c'est probablement secret. Hein. On le disait tout à l'heure, effectivement.
Vous pensez pas, vous ?
Moi, je pense que c'est certainement Canal+ qui a mis le plus cher. Parce que n'oublions pas quand même que là, on a quatre acteurs. Mais il y en a trois qui sont des chaînes spécialisées sport, RMC, Media Pro, Bein. Canal+ n'est pas une chaîne spécialisée sport.
C'est une chaîne généraliste.
C'est
avec
une
des
chaîne
films
généraliste.
Également.
En revanche, ils ont construit leur ADN autour du sport et du cinéma et autour de l'offre premium. Donc, il fallait revenir à cette offre premium, refidéliser et rendre un peu de confiance aux abonnés.
J'ai vu le très beau titre de l'équipe samedi matin, Canal Historique, le quotidien du sport qui se réjouit que Canal revienne. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont revenus, Canal+, ils ont trouvé de l'argent qu'ils n'avaient pas, ils ont mieux négocié alors qu'on les disait moribond. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont réussi ce coup-là ?
Mais parce qu'on parle du montant de la Coupe d'Europe, donc on est dans les 375 millions d'euros, on est bien au-delà, enfin, on est sur un tiers de la valeur de la Ligue 1. C'est-à-dire qu'ils ont perdu la Ligue 1, mais ils ont finalement fait des économies par rapport à ce sujet-là. Ils ont retrouvé une capacité d'investissement.
La Ligue 1, c'est plus d'un milliard, c'est ça ? C'est combien ? 1,1 ?
Alors, on est sur 1 milliard 150 millions d'euros à date, et il me semble qu'il peut y avoir encore des
pour les gens qui nous écoutent, 1 milliard 150 millions d'euros à l'année.
Par an, tout à fait.
Par an, effectivement. Donc, ça veut dire que pour arriver à rentabiliser ce genre d'investissement, il faut au moins avoir 4 millions d'abonnés.
Ouais.
Et c'est là où on a des vrais doutes sur la capacité à Mediapro à assumer ses engagements, créer une chaîne, etc. Puisqu'on sait aujourd'hui que Bein Sport navigue aux alentours de 3,2-3,5 millions d'abonnés, hein, après presque 10 ans de diffusion et des gros efforts, et que Canal va être aux alentours de 4 millions, 4,5 millions d'abonnés. Donc ça voudrait dire que d'un seul coup, cet acteur nouveau, sino-espagnol, qui est arrivé comme ça brutalement il y a un an et demi dans les radars français, ça voudrait dire que brutalement, cet acteur-là serait capable de mobiliser 4 millions d'abonnés. Ça semble quand même assez...
Comment ils vont faire alors ? Qu'est-ce qui va se passer ?
Ah, ça, c'est une bonne question.
Ben, c'est pour ça que vous êtes là.
En fait,
est-ce qu'ils ne vont pas s'allier ? On dit que Mediapro, qui va avoir les droits du championnat, mais qui aura perdu la Champions League, va peut-être s'associer avec Canal+. Ben,
il faut déjà comprendre...
Et que chacun va donner une partie de ses images à l'autre. Est-ce que vous croyez à cette hypothèse ?
Il faut déjà comprendre la mécanique. Déjà, Mediapro, c'est une société de production au départ. Et donc, soit elle produit, soit elle diffuse, soit elle fait les deux. Donc, elle a l'habitude de travailler notamment à l'international avec Bein Sport. Donc, ils produisent beaucoup d'images pour Bein Sport. Donc, c'est une capacité de partenariat là-dessus. Et après, il y a effectivement d'autres stratégies. Canal+, par exemple, a eu à un moment donné la stratégie de dire si je n'ai pas la propriété, je peux avoir la diffusion, la distribution avec mon canal SAT, par exemple.
Et puis, il y a autre chose qu'on n'a pas dit, c'est que Mediapro est absolument furieux de ne rien obtenir dans cette négociation. Il menace d'un procès. On vous en parle juste après ça.
Dans l'infomédia du jour, on revient ce matin sur les droits télé du foot. On en reparle dans un court instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
375 millions par an, plus d'un million d'euros par jour. C'est le montant des droits de la Champions League qui viennent d'être attribués à Canal+ et Bein Sport. On en parle ce matin dans l'infomédia du jour avec vos invités, Philippe, Virgile Caillé, directeur délégué général d'Union Sport et Cycle, et Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business.
Et alors, l'Espagnol Mediapro qui a obtenu les droits du championnat de France de foot normal, le championnat de la Ligue 1 l'an prochain, Mediapro était furieux de ne rien obtenir dans la négociation pour la Champions League et son président Raúl Rourès a réagi de manière très vive, je le cite, il y a eu une magouille. Nos offres étaient les meilleures sur les deux tours. Depuis jeudi après-midi, l'UEFA était en train de tenter d'arriver à un accord entre Canal+ et Bein Sport pour faire monter l'offre. Vous êtes d'accord avec ça ? Vous le présentez comme ça ?
Avec le terme magouille, non. Encore une fois, c'est un appel d'offres de droit privé, donc il y avait la possibilité de travailler à l'aveugle, puis de rentrer dans du gré à gré.
Mettre d'accord, c'est légal ?
Bien sûr,
ah bon
ça a déjà été fait.
Le président dit qu'on peut se mettre d'accord que s'il y a un gros et un petit, mais pas de la même taille.
Mais après, c'est les discussions qui souhaitent mettre en place. Mais c'est du gré à gré.
Virgile. Oui, n'oublions pas aussi que parmi les critères de choix, l'UEFA avait pris le soin de garder le critère de l'audience et de la promotion des événements. Donc, pour Mediapro, je pense que le recours, il est injouable.
Ah bah attendez, alors je vais le dire, le recours. Il a promis de contre-attaquer, leur président. Nous allons attaquer l'UEFA en justice ensuite, demander l'accès à la documentation de l'appel d'offres du premier et du deuxième tour. Et il souhaite que les offres remises par chacun soient rendues publiques.
Non mais ça paraît très improbable. L'UEFA est quand même pas un nouveau-né en matière de négociation de droits télé, donc ils sont couverts, ils sont béton là-dessus. Pour moi, il y a aucun risque. Et en plus, il faut savoir que Mediapro est quand même englué dans quelques affaires. C'est très compliqué en Italie actuellement. Ils viennent de perdre un appel d'offres en Espagne alors qu'ils étaient mieux 10 ans, donc la même situation probablement. Donc je pense que c'est très compliqué pour eux. C'est une chaîne particulière qui fait un peu peur. Alors est-ce que c'est lié à son organisation capitalistique? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle inquiète cette nouvelle chaîne.
Alors maintenant, on va parler d'RMC Sport, qui est vu comme ça de l'extérieur d'en haut comme le grand perdant. Une toute nouvelle chaîne qui a été lancée à l'été 2018 pour diffuser la Ligue des Champions, dont les droits avaient été acquis par le groupe Altice. Mais s'ils perdent cette Ligue, ils n'ont quasiment plus rien à diffuser sur RMC Sport.
Alors le business model d'RMC est particulier parce qu'ils sont à la fois diffuseurs télé mais aussi diffuseurs radio. Et on a vu qu'ils savaient créer de l'audience sans avoir nécessairement les droits. Donc là, le sujet, évidemment, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour eux. Mais après, il y a d'autres droits. On a parlé de l'Europa League. Ouais. Il y a la Champions League qui doit arriver.
Il y a un nouveau nom, conférence. Oui.
Qui doit arriver. Et puis, il va y avoir des négociations. En fait, ce qui est très intéressant à comprendre, c'est que depuis la semaine dernière, on a ouvert de nouvelles ères de discussion entre diffuseurs et distributeurs.
Là, c'est le troisième tour. Mais juste une question, est-ce que ces droits ne sont pas trop chers? Je veux dire le sens de ma question. Quand on a su que RMC, donc la filiale RMC Sport, la filiale d'Altice, avait perdu les droits de la Ligue 1, vous savez ce qui s'est passé en bourse? La bourse a monté. Ils ont dit, ouf, ils n'ont pas le football. Est-ce que tout ça ne se fait pas à perte? Est-ce qu'on ne marche pas sur la tête?
Ce que l'on peut dire, c'est qu'on a la certitude que les droits, à l'heure actuelle, vu le prix, ne sont pas rentables. Ça, c'est une certitude. En revanche, pour certaines chaînes, ils sont incontournables. Parce que c'est la notion statutaire, c'est aussi la confiance des abonnés, c'est le modèle économique dans la durée. Donc pour certaines chaînes, et notamment Canal ou beIN Sports, c'est incontournable. En revanche, comme le disait Vincent, pour RMC, on peut imaginer qu'ils passent d'un rôle de diffuseur, un rôle de distributeur. N'oublions pas qu'ils ont un bouquet sport dans lequel on retrouve beIN et Canal. Donc on pourrait imaginer que pendant encore un an et demi, puisque n'oublions pas qu'RMC a encore les droits de la Champions League pendant une saison et demie, ils revendiquent l'ensemble du football.
Attendez, juste une question. Quand on est sur le bouquet sport de SFR et qu'il y a beIN, l'abonnement qu'on paye, on le paye à SFR, à beIN ou aux deux?
Alors, on paye à SFR qui, derrière, rétribue beIN Sport pour la diffusion de sa chaîne.
Mais on n'a pas besoin de s'abonner à beIN.
Exactement.
D'accord, j'ai compris. Vous vouliez dire quelque chose, Vincent Chaudel?
Mais juste dire qu'on est dans un système où, effectivement, il est très difficile désormais d'avoir un équilibre sur un retour sur investissement direct. Mais dans ces médias-là, on a aussi un retour sur investissement indirect parce que ça change la position et la capacité d'attirer des abonnés. Donc c'est pas nécessairement sur les droits du foot que l'on gagne, mais ça peut être sur une approche plus globale.
On perd de l'argent, on fait venir des gens et après on leur...
C'est un peu comme la tête de gondole dans une grande surface, c'est pas nécessairement sur le... On ne peut pas dire les marques sur les...
Non, je veux dire quelque chose. C'est un très bon exemple que vous donnez là, puisque d'après ce que je sais, dans les grandes surfaces, la vente à perte est interdite.
Exactement.
Or là, c'est de la vente à perte.
Mais oui et non, parce qu'en fait, on ne peut pas identifier... Quand vous êtes abonné sur Canal, on ne vous dit pas pour combien vous mettez sur le sport, vous, en tant qu'abonné.
C'est vrai.
Donc, oui, sur le sujet, sur l'approche de vente à perte, on peut être d'accord, mais comme Canal va vendre du foot, mais aussi du cinéma et d'autres contenus, on ne peut pas faire ce ratio-là.
Tout à fait autre chose. Il y a eu le tirage au sort de l'Euro là, ce week-end. La France est dans le groupe de la mort, j'explique, avec l'Allemagne et le Portugal. Seuls les deux premiers vont passer. Donc, il y a trois grandes équipes qui devraient pouvoir passer, mais il n'y a que deux places. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour TF1 et M6 qui vont avoir les droits de l'Euro? Est-ce que les Français peuvent ne pas passer le premier tour?
C'est un risque, c'est pas encore une mauvaise nouvelle à ce stade-là parce que pour le coup, les trois matchs de poule vont être des records
énorme audience.
Donc ça c'est sûr. Et après ils peuvent être le meilleur troisième et ils peuvent encore passer. Donc
Oui, vous avez fait des drôles de têtes.
Non, mais c'est pour ça qu'on aime le sport. C'est parce que rien n'est écrit d'avance. Sinon, ce serait décevant. Donc voilà, c'est la glorieuse incertitude du sport. Et c'est pour ça qu'on regarde le sport en direct à la télé.
Et puis alors, ce soir, il y aura l'élection du Ballon d'Or à 20h30. Est-ce que vous avez un pronostic, Messi, Mbappé, Valère Germain?
Ce sera pas...
Bon. Ça, on hésite. Hein. On hésite, pas facile.
Ah, je vous ai eu avec Valère Germain. Vous attendiez pas à celle-là.
Mais même Mbappé, ça ne sera pas le cas cette année.
Non,
ce qui est dommage, c'est que c'est probablement des joueurs de Liverpool qui auraient pu le gagner. Mais comme il n'y a pas de superstar et qu'ils ont 3 ou 4 joueurs, les voix se sont réparties sur ces joueurs-là. Et j'ai bien peur que ce soit Messi.
Il faut dire pourquoi Liverpool, car c'est Liverpool qui a gagné
la Champions League.
Voilà, je dis ça pour les gens qui ne suivent pas le football. C'est en 3 tours. Vous reviendrez, messieurs, parce qu'il va y avoir les derniers droits et on va voir qui a gagné, qui a perdu vraiment et quelles ont été les alliances. Merci d'avoir été avec nous. Je le rappelle, Virgile Caillet, délégué général Union Sport et Cycle, et Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business.
Merci.
Estelle Lefebvre, notre prochaine invitée, elle vient nous parler ce matin de son voyage au Kenya pour l'émission Rendez-vous en Terre Inconnue. On l'accueille dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Estelle Lefebvre.
Bonjour Estelle Lefebvre.
Bonjour.
Vous êtes mannequin et même top modèle, comédienne, femme de télévision. Pour la petite histoire, vous détenez toujours le record du nombre de couvertures du magazine Elle.
Et 30, oui, toujours.
37 couvertures, pas toutes sous votre nom parce qu'au départ, vous n'étiez pas connu. Mais 37 couvertures, actualité immédiate, vous êtes parti et revenu dans Terre Inconnue avec Raphaël de Casabianca, le nouveau présentateur. C'est toujours Frédéric Lopez qui est le producteur. On va voir l'émission demain à 21h sur France 2. Où êtes-vous parti exactement? Chez qui?
Au Kenya, chez les Samburu.
Alors, qui sont-ils?
C'est une communauté qui vit en fait dans les montagnes, à 2500 mètres d'altitude. Donc, ils ont une espèce d'oasis, parce qu'ils ont une source, ils ont du bétail. Et c'est vrai que ce n'est pas du tout le Kenya qu'on peut imaginer dans la brousse, la savane, où c'est très sec. Là, il y a vraiment beaucoup d'arbres, c'est extraordinaire.
Visuellement, c'est très, très, très beau. Remarquez, comme toujours, l'émission, c'est rare qu'elle soit moche, cette émission, c'est magnifique. Physiquement, c'était musclé. Ils ont commencé en vous encrapahuté. Vous avez marché pendant combien de temps pour rejoindre? Parce qu'il n'y a pas de route, vous y alliez à pied.
Complètement. On a mis 2 jours pour monter. Vraiment. Il a fallu d'ailleurs faire un stop la nuit pour un
J'ai
peu
adoré
se
le
reposer.
Stop. Il pleut jamais. Vous arrivez, bim, il pleut.
Non, vraiment, c'était assez hallucinant. Et je me suis dit, eh bien, ça commence bien.
Il y a quand même Raphaël de Casabianca qui est avec vous, qui pose parfois des questions étranges.
Regardez, c'est une bouse d'éléphant.
Ça veut dire qu'il y a des éléphants ici autour de nous?
Ah bah oui, banane, ils sont pas allés les chercher en hélico. En général, quand il y a une bouse d'éléphant, vous n'êtes pas d'accord? Je suis pas Colombo, mais en réfléchissant un peu, on peut se dire ça. Alors, non seulement il y a des éléphants, mais également des léopards. Vous les avez vus? Vous avez eu peur?
Non,
ou pas?
Non, on les a pas vus. Par contre, elles les ont entendus la nuit. Moi, rien.
J'ai bien
tellement
dormi.
Fatiguée.
C'est pas vrai.
De la marche, que franchement, j'ai rien entendu. Mais elles ont entendu une hyène et un léopard.
Quand elle donne les conseils, comment se comporter avec la hyène, le léopard ou l'éléphant? T'as encore plus peur, t'aurais préféré ne pas avoir de conseils. Alors, la rencontre a été centrée autour de 3 femmes. Votre rencontre, qui sont ces 3 femmes?
En fait, c'est vraiment le cœur du village. Les femmes sont vraiment au cœur de ce village. Et ces 3 femmes, Soleanne, Ritayo et Daria, ce sont trois femmes exemplaires d'une force incroyable, malgré tout ce qu'elles ont pu vivre dans leur vie, qui n'est pas toujours facile quand même.
Elles ont construit une maison pour vous.
Exactement.
Une 15aine de femmes, ça leur a pris 3 mois. Vous étiez tellement touchée, vous en avez pleuré.
Oui, mais vous imaginez? C'est-à-dire qu'on vous loge, mais on vous dit, voilà, on vous a offert cette maison, elle est à vous. Et là, vous dites, mais non, c'est pas possible. Si, si, c'est possible, mais au-delà de ça, c'est la construction. C'est elles qui l'ont fait. Et quand on voit les moyens qu'ils ont pour construire enfin cette maison, c'est dément.
Ah, il y a des séquences assez étonnantes sur fond de couleur de peau. Les enfants avaient peur de venir vous voir parce qu'ils n'avaient jamais vu de blanc ou de blanche, ça même plus loin.
Et de blonde surtout.
Oui, vous n'avez pas réussi à traire la vache parce que les vaches n'avaient jamais vu des blondes. Et elles ont eu peur, dit une des femmes, elles ne sont pas laissées traire vraiment.
Ah non, non, mais vraiment, j'ai eu beaucoup de mal. Il était 5h30 du matin. Alors moi, je me suis réveillée déjà, je vais la tête complètement dans le pâté. Et là, j'arrive, et impossible, la vache mais qui me fuit. Et elle avait très peur, Soleanne. Elle me dit, attention, parce qu'elle va donner un coup de sabot. Enfin voilà, c'était assez un petit peu dangereux quand même de ne pas me prendre un truc dans les... dans la tête.
Alors, dans cette communauté, le divorce est interdit et il y a une longue séquence de dialogue en mode choc des cultures. Les femmes vous posent des questions. Elles découvrent que vous avez 3 enfants de 2 pères différents. Pour la petite histoire, pour qui ne le saurait pas, David Hallyday puis l'animateur Arthur, on écoute.
Donc, si je comprends bien, il y a eu un premier mari, puis un deuxième. Tu en cherches un troisième ?
Alors ?
C'est pas que je cherche, mais si je rencontre quelqu'un où je tombe amoureuse, oui.
Tu as vraiment eu beaucoup d'hommes.
Oui.
Tu es une mauvaise épouse ?
C'est quand même génial comme
c'est
point
pas
de
mal,
vue.
Non ouais. Ah, je rectifie, mon fils n'est pas d'Arthur. Hein.
Ah d'accord, pardon, je ne savais pas. Alors j'ai dit de mémoire sans même savoir.
Non, non. Mais en fait, oui, j'ai bien ramé en tout cas pour ouais. essayer de leur faire comprendre que chez nous, eh bien, on avait la possibilité en effet d'avoir un mari. Et puis bah, si ça ne marche pas, si vraiment voilà, on a la possibilité de se séparer et puis peut-être de se remarier, ce qui n'est absolument pas pensable chez eux.
Avez-vous l'impression qu'elles vous ont comprise ?
Je ne crois pas. Je ne pense pas.
Ou est-ce qu'elles étaient heureuses comme ça de leur sort et de cette culture ? On va parler ensuite de la manière dont elles se marient dans la seconde partie de l'émission.
Heureuse, je ne sais pas, mais oui, parce qu'après, Daria, maintenant, elle dit, voilà, son mari, il y a un amour très fort qui s'est lié, ce qui ouais. n'était pas vraiment du tout au début quand elle était jeune fille. Mais en tout cas, voilà, c'est peut-être une bonne leçon aussi de voir qu'il faudrait peut-être prendre un petit peu plus de temps pour essayer de faire en sorte que nos histoires marchent, que voilà, nos relations marchent plus.
Ah, vous parlez pour vous ?
Non, je parle, oui, dans notre société, pas pour oui. moi. Je parle dans la société. C'est ouais. vrai que nous, on va, voilà, c'est un peu rapide, quoi, souvent. Les décisions sont prises
un peu rapidement, fois. D'accord. Je ne vais pas vous demander si vous êtes une mauvaise épouse. J'avais entendu, jamais entendu
tout.
Une question pareille. Vous restez avec nous ?
Oui. Estelle Lefebvre est notre invitée. On revient avec elle sur son aventure vécue au Kenya lors du programme Rendez-vous en Terre Inconnue. On en reparle dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Rendez-vous en Terre Inconnue, c'est demain à 21h sur France 2 avec Estelle Lefebvre qui est notre invitée ce matin et qui est partie au Kenya pour cette incroyable aventure, Philippe.
Ça se passe chez les Samburu. Là-bas, les femmes sont mariées très très jeunes. Dans toute l'émission, personne n'a osé dire le chiffre. Elles sont mariées à quel âge ?
En fait, elles ne savent pas.
Non, mais ce que vous avez vu, elles avaient l'air d'avoir 12 ans, 14 ans, 16 ans.
Ouais,
plutôt
voilà.
12 que 14.
Ouais, 12, 13.
C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, si ça avait été 15, on l'aurait dit à l'antenne. Là, ce n'était pas à l'antenne. Ça devait être très, très jeune. Elles sont presque mariées de force. Enfin, pas de force, mais c'est arrangé. Il suffit pour ça qu'un mari choisisse sa femme, que le père accepte. Une femme n'a pas le droit de divorcer. Il y a de la polygamie, mais dans un seul sens. Un homme peut avoir plusieurs épouses, mais une femme ne peut pas avoir plusieurs maris. Et si une femme refuse un mariage, elle est mise à l'écart du clan, de la communauté, du village. Et je me dis, l'émission va faire bondir les féministes.
Oui, certainement, mais en même temps, vous savez, on n'est pas là pour juger là, quand on vient. On est là pour découvrir, on les écoute. Il y a beaucoup de moments, justement, d'écoute, de silence. Et on sent que ça pèse chez ces ouais. femmes. On sent qu'elles ont quand même envie de changer certaines choses. Et en même temps, elles sont quand même bloquées par les anciens, par cette culture. Donc, on sent qu'elles ont envie de bouger quand même, de se rassembler justement, tout en femme. Et c'est ce qu'on essayait de faire comprendre.
Ouais.
Maintenant, voilà, on peut pas arriver comme ça, nous, avec notre culture, notre société, et arriver et dire, vous savez, vous devriez changer, hein, parce que c'est pas bien. Ça se fait pas. C'est pas possible.
Alors, on n'est pas du tout dans le politiquement correct. Vous aidez les femmes à faire la cueillette du tabac au même moment où France Télévisions fait le mois sans tabac. Il y a une petite fille qui doit avoir 4-5 ans qui est là, qui prend des feuilles, qui les mange directement. Ça a même pas été coupé, ça.
Oui, non, c'est vrai.
Il est comment, leur tabac, vous en avez mangé ?
Non, en fait, on ne mange pas.
On le met dans le nez.
Oui, tout à fait.
Alors ?
Et c'est hyper fort. Mais c'est-à-dire qu'on prend et là, ça pique le nez, ça monte dans le nez. Et moi, j'ai éternué tout de suite. Mais elle, c'est tellement rien pour elle qu'elles étaient mortes de rire quand même.
Estelle Lefebvre, est-ce que vous avez peur de votre âge ?
Non.
Parce qu'il y a un dialogue savoureux, ça se passe autour du bivouac, donc au sujet de l'âge. C'est Camille de Casabianca, vous êtes là évidemment, il pose une question à ces 3 femmes africaines.
Vous vous connaissez depuis combien de temps ?
Depuis toujours, mais on ne connaît pas notre âge, alors on ne sait pas combien de temps ça fait.
Vous n'avez vraiment aucune idée de votre âge ?
Non, pas du tout.
C'est mieux. Nous, chaque année, on fait un anniversaire. Et souvent, les gens, ils ne veulent pas avoir un an de plus.
Mais vieillir, c'est bien. Quand t'es vieux, t'es respecté. T'as quel âge, Estelle ?
J'ai 53. C'est bien, ça les fait rire.
C'est que je suis peut-être plus âgée que toi.
53, c'est pas si vieux, mais c'est pas jeune non plus.
Ah. Bim, prends ça.
Elles ont toujours été très directes avec moi. Ouais. Quand je faisais pas bien, quand je coupais pas bien le bois, quand je... Tout ça, mais direct. Laver le linge, pareil.
Vous avez mangé le plat traditionnel, c'est de la farine avec de l'eau, rien d'autre. Et alors, contrairement à toutes les séquences de Rendez-vous en Terre Inconnue, j'en ai vu beaucoup de ces émissions, personne n'ose dire « c'est bon ». Donc je dis que c'était pas très bon.
C'est un peu fade, quoi. Ouais. C'est-à-dire, quand, au bout d'un moment, c'est vrai que c'est répétitif de manger que ça.
Il y a juste Raphaël de Casabianca qui a dit « Ah, ça fait du bien !» Je me suis dit « Ça fait du bien, mais ça ne doit pas être très bon !»
Non, mais on avait faim.
Ah bah, j'imagine, on vous donnait d'autres choses à manger ou vous étiez vraiment nourri par la tribu, par le petit village ?
Non, moi j'ai principalement mangé tout le temps avec eux parce que vraiment j'étais logée à côté. Puis j'étais invitée par Souleyane, donc je ne pouvais pas commencer à aller ou à demander quelque chose d'autre. Quelques bars. J'ai eu quelques bars pour prendre un peu d'énergie.
On ne donne pas les marques, sauf si c'est des annonceurs. Vous avez dit, quand je vais rentrer chez moi, il y aura quelque chose de changé en moi grâce à vous. Qu'est-ce qui a changé en vous avec cette émission, avec ce voyage ?
Je crois qu'on prend conscience de certains mots, de la définition de certains mots. Communauté, solidarité, amitié. Ce sont des mots très forts chez eux. Et je pense que voilà, chez nous, on a un peu oublié la définition.
Et vous avez même dit que vous alliez faire le tri parmi les amis.
Ouais, ça, à chaque fois je dis ça. Mais...
Vous le dites à chaque fois. Une fois, je vous avais reçu il y a très longtemps dans une autre vie, vous m'avez dit l'amitié c'est comme un dressing, de temps en temps il faut faire le tri.
Oui, bien sûr.
Je ne peux pas ne pas vous poser la question, vous êtes très proche David Hallyday, le fils de Johnny, votre premier mari, le papa de vos deux filles. Et selon la presse, Laetitia donne des consignes pour que vous ne puissiez plus aller vous recueillir sur la tombe de Johnny. Est-ce que vous confirmez ou est-ce que les choses sont en train de s'arranger ?
Ah ben je sais pas, j'étais pas au courant.
Donc c'est pas vrai, vous voulez pas en parler ?
De cette consigne. Voilà.
C'est vrai ?
J'étais pas au courant.
Eh ben je vous l'apprends. C'était dans Closer. Merci Estelle Lefébure. Je rappelle, Rendez-vous en Terre Inconnue, ça sera demain à 21h sur France 2. Et pardon, je l'ai appelée Camille, parfois la cinéaste. C'est avec évidemment Raphaël de Casabianca. Merci d'avoir été avec nous Estelle.
Merci.
Dans un instant, on poursuit avec notre heure culture. Mais juste avant, place aux digressions des rats d'auteur. Votre rendez-vous d'humour dans Culture Média avec le duo Stéphane de Groot et Gilles Gaston Dreyfus.
Gilles Gaston Dreyfus, Gilles.GastonDreyfus.
Toi, c'est Stéphane de Groot.
Toi, tu dis de Groot.
Une vraie question. En France, on dit de Groot.
Oui.
Donc,
qu'est-ce que vous disiez, du coup ?
Bah, du coup, je...
Rien. Vous avez passé un bon week-end, Gilles ? Bonjour d'abord, pardon. Excusez-moi, nous sommes lundi.
Bonjour, Stéphane.
Vous avez l'air un petit peu ballonné, c'est normal ou pas ?
J'ai une bulle d'air qui s'est coincée dans l'œsophage.
Ça s'appelle de l'aérophagie.
Non, c'est des remontées gastriques.
Oui, mais je pense qu'ils en ont un peu rien à. Vous voyez ? Il y a un truc qui m'a surpris l'autre jour lorsque vous m'avez dit il est vachement bien.
Trump.
Non. J'étais très surpris.
J'évite simplement de participer au Trump bashing, comme on dit.
Contre-courant, comme certains poissons. Il avait une tête de poisson, d'ailleurs.
Tout homme, on trouve quelque chose de bon.
Défendez-nous Trump, alors.
J'aime bien dire le président Trump.
Ah oui, donc carrément, vous l'aimez beaucoup.
N'oublions pas quand même qu'il a été élu. Hein.
Encore, les voiles ont été un petit peu bourrées, quand même.
Sauf qu'on n'y connaît rien.
Pourquoi vous dites ça, vous n'en savez rien ?
Parce que...
Vous avez vraiment des gros problèmes gastriques. Hein.
Clinton aurait dû être élu, mais elle n'a pas été élue.
Ça, c'est un constat qui est assez pertinent. Vous trouvez ça chouette d'avoir un président qui est élu alors qu'il n'aurait pas dû être...
J'ai pas dit que c'était chouette. Je respecte les systèmes dans lesquels les pays travaillent.
Vous respectez les systèmes. Vous êtes vraiment dans les rails. Vous.
Mais Trump, il a été élu. Il y a le côté vestimentaire qui vous dérange.
Les costards qui sont mal coupés. Les cheveux en forme de paillasson.
Le pauvre.
Moi, j'ai rien dit.
Faut pas juger les gens.
J'ai juste dit, vous pouvez nous donner un argument qui fait que Trump est un chouette mec.
J'ai pas dit un chouette mec.
Qu'est-ce qui vous plaît chez lui ? Ça, c'est un premier argument. Le deuxième.
C'est le peuple américain qui a changé. Pas Trump.
En fait, vous n'entendez pas la question. Vous n'entendez aucune question. Vous ne voulez vous nourrir que des réponses. Qu'est-ce que vous trouvez de bien auprès de Trump ?
Qu'est-ce qu'il trouve bien ? Sa cravate rouge. Je ne sais pas de quoi.
Voilà, vous ne savez pas. Exactement là où je voulais en venir.
Qu'est-ce qu'il a fait ?
Qu'est-ce qu'il a fait Trump ? Voilà. Deuxième argument, de nouveau. Hein, comme le premier, vous passez chaque fois la main.
Non. Alors, je ne sais pas.
Si. Voilà. Troisième argument.
Non, mais qu'est-ce qu'il a fait du temps sur le deuxième. La guerre commerciale avec la Chine.
Vous trouvez ça bien ?
Il a ses raisons.
Mais ses raisons, c'est pas un argument.
Trump, il défend les États-Unis.
Vous dites Trump.
Non, non, non.
Si. On ne parle pas du même, en fait.
Simplement, je respecte le système.
Le peuple a voté. Donc c'est bien. Après, Bolsonaro, c'est bien aussi.
Je dis pas que Bolsonaro est bien, je dis qu'il a été élu. C'est compliqué, est-ce qu'on parle de sujets sérieux ?
Vous pouvez le faire en chantant, en dansant. Oui, je vais vous dire à demain, parce que là, c'est fatigant. On a fait beaucoup, beaucoup sur Trump. Là. Vous avez dit au revoir, non ?
Oui, ça a été un lundi très difficile pour moi.
C'est un lundi, Gilles.
Ah, oui.
C'était les rats d'auteur avec Stéphane de Groot et Gilles Gaston Dreyfus. Feuilleton quotidien que vous retrouverez demain à 9h55 et en podcast également sur Europe 1.fr.
Europe 1 Culture Média.
Culture Média qui continue après le rappel des titres de 10h. On va parler culture avec le chanteur Sanseverino. Il sera ce soir au Café de la Danse en concert à Paris pour son dernier projet, Sanseverino et Tango Motan. Ensuite, il y aura une grande tournée en toute la France. L'ambiance, c'est tango, matinée de rock'n'roll. Hélène Manarino ne va pas danser le tango, mais va nous dresser son portrait inattendu. Et puis, dans les indispensables, une mini-série documentaire en 5 épisodes sur Netflix, Grégory. Oui, l'affaire Grégory. Margot Barallon l'a regardée, elle en a encore toute retournée. Et puis, mon premier lac des signes, c'est au théâtre Mogador, le ballet légendaire, adapté pour petits et grands. Louise Bernard s'est rendue à la première ce week-end.